Bonjour Sonia Mabrouk.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
8h, 8h30, on est ensemble pour une demi-heure d'infos.
Europe 1, il est 8h.
C'est le manque d'informations qui est incompréhensible et qui est intolérable. Donc il faut venir en car, c'est pour ça que moi je me suis levée à 5h du matin pour essayer d'avoir un train aujourd'hui.
Après 3 jours de galère, le trafic revient peu à peu à la normale ce matin, mais la confusion reste de mise, pas ou peu d'informations comme à la gare Saint-Charles à Marseille.
Un mouvement à la SNCF sur fond de contexte social tendu avant une journée de mobilisation le 5 décembre contre la réforme des retraites. Sur ce sujet, votre invitée Sonia.
Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, qui a dans son ministère les transports. On fera un point précis sur l'état du trafic dans quelques instants et au-delà sur le bras de fer avec les syndicats.
Ils n'en peuvent plus et ne comprennent plus grand-chose. En Grande-Bretagne, les Brexiteurs veulent voir le bout du tunnel et aller au no deal.
On doit partir le 31, qu'il y ait un accord ou pas, peu importe, on doit partir.
Est-ce un parfum de révolution qui flotte au pays du cèdre, le Liban, secoué par de grandes manifestations? La foule dénonce la corruption et exige la chute du gouvernement.
Et c'est l'un des départements français les plus touchés par la crise migratoire, Mayotte, où se rend Emmanuel Macron, le président, en visite de 4 jours en Outre-mer, un territoire submergé par l'immigration clandestine. 8h02, bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Le journal Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk.
Après la galère, le remboursement, la SNCF promet que tous les passagers impactés par le mouvement social des 3 derniers jours rentreront dans leurs frais. Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, l'assure, tous les voyageurs qui n'ont pas pu prendre leur train seront intégralement remboursé.
En attendant, quelle est la situation côté trafic? Selon la direction de la SNCF, 3 TER sur 4 circulent ce matin, 2 intercités sur 3. Le sud a été particulièrement touché ce week-end avec aucun TER. Vous allez nous dire ce qu'il en est ce matin chez vous au 39-21. À Marseille, où vous vous trouvez, Nathalie Chevance, gare Saint-Charles, la situation s'améliore.
Oui, un lent retour à la normale. D'ailleurs, les panneaux lumineux annoncent que le service restera perturbé jusqu'à midi. C'est valable pour le réseau TER, avec par exemple 2 trains supprimés ce matin vers Toulon, 4 supprimés aussi en direction d'Avignon. Et pour les intercités, il n'y aura que 4 allers-retours sur 7 dans la journée. Muriel, qui devait partir pour Bordeaux ce matin, en fait les frais. Elle est très en colère.
C'est le manque d'informations qui est incompréhensible et qui est intolérable. Encore ce matin, oui. Sur les sites, on peut avoir aucune information. On dit 2 intercités sur 3, bah oui, mais lequel? Donc il faut venir en car, c'est pour ça que moi je me suis levée à 5h du matin pour essayer d'avoir un train aujourd'hui.
Alors certaines liaisons régionales sont encore assurées par bus, d'autres affichent des retards d'un quart d'heure. La bonne nouvelle, c'est la reprise du trafic TGV et Ouigo à 100%. Mais pour Thomas qui voyage en famille et qui a dû reporter son déplacement, l'addition reste salée. Le remboursement annoncé par la SNCF, la moindre des choses, dit-il.
Heureusement. Sinon, je pense qu'il se serait exposé à des problèmes un peu plus compliqués.
Vous, de reprendre des billets, ça vous a coûté plus cher?
Pour l'aller-retour, c'était 250 euros et là, l'aller simple, il est à 180. Plus le bus que j'ai dû prendre finalement pour descendre depuis Paris, ça fait cher le week-end. On fait chier les familles, on fait chier plein de monde. Il y a vraiment un problème.
Voilà, mais ce matin, la tension est quand même retombée après un week-end de quasi-paralysie, gare Saint-Charles.
Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille. Le Premier ministre qui l'a fermement indiqué pour le gouvernement, il s'agit d'une grève sauvage et d'un droit de retrait détourné.
Dans un contexte social tendu, ce mouvement s'apparente à un premier coup de chauffe avant la grande mobilisation annoncée le 5 décembre prochain contre la réforme des retraites.
Bonjour Emmanuel Lutheil.
Bonjour.
Est-ce le cas? Ce mouvement des 3 derniers jours est-il un coup de semonce des syndicats?
Eh bien la CGT le dit très clairement, nous appelons maintenant les cheminots à se mobiliser massivement le 5 décembre pour protester contre la réforme des retraites. Certains le reconnaissent, ce mouvement inopiné était une forme d'avertissement. Un cadre de la SNCF estime même que l'accident de train était une sorte de prétexte pour faire monter la pression. La CGT notamment a voulu montrer ses muscles, analyse ce cadre. Beaucoup de syndicats jugent que la transformation de l'entreprise va aujourd'hui beaucoup trop vite ou que l'ouverture à la concurrence annonce de gros problèmes de sécurité. La direction de la SNCF reconnaît que l'entreprise est en pleine mutation. Elle parle même de rupture de culture, mais elle estime accompagner au mieux ces révolutions. Pour tenter de calmer les esprits et pour sortir de ce conflit, elle a promis dès hier de renforcer la sécurité sur les TER lorsque le conducteur est seul. Elle accélère aussi des recrutements prévus pour lutter notamment contre l'insécurité en gare. Ça va dans le bon sens, estime-t-on notamment à l'UNSA, mais tout le monde est bien conscient après ce conflit que le vrai rendez-vous, c'est bien le 5 décembre et la bataille des retraites.
Merci Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Et précisons qu'Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire en charge des transports, sera votre invitée, Sonia, dans une dizaine de minutes maintenant.
En bref, à présent, Mathieu Pigas quitte la banque Lazare. Même si son départ était pressenti ces dernières semaines, c'est un mini-séisme dans le monde de la finance.
Celui qui est par ailleurs actionnaire du quotidien Le Monde a remis hier sa démission de la banque d'affaires.
Pour qualifier ce qui se passe en ce moment autour du Brexit, la presse britannique décrit, je cite, « la maison des fous », alors que les députés ont repoussé samedi le vote de l'accord négocié par Boris Johnson avec l'Union européenne.
Situation parfaitement ubuesque d'un Premier ministre contraint par la loi de demander à Bruxelles un report du Brexit dont il ne veut absolument pas. Il va d'ailleurs tenter dès aujourd'hui d'organiser un nouveau vote.
Oui, mais la plupart des Britanniques n'en peuvent plus. Exemple à Grays, dans le comté de l'Essex, à 20 km à l'est de Londres. Grays est l'une des capitales du Brexit. Près des trois quarts des habitants ont voté en faveur de la sortie de l'Union européenne. Alors forcément, sur place, on n'en peut plus de cet interminable feuilleton. Pauline Jacquot.
On doit partir. On doit partir le 31. Qu'il y ait un accord ou pas, peu importe. On doit partir.
Le simple mot Brexit excède désormais Sharon. Ce compte à rebours qui n'en finit pas, dit-elle, c'est un déni de démocratie.
Les gens ont voté. Ils savent ce qu'ils veulent. Le Parlement n'écoute rien. Ils se comportent comme une bande d'idiots. Ils doivent nous soutenir.
La question du référendum était pourtant simple. Souffle Gary, sortir de l'Europe, oui ou non? Nous avons répondu oui, peu importe les conditions.
Ça fait 3 ans maintenant. Qu'est-ce qu'ils attendent au Parlement? Ce n'est pas un Parlement, c'est juste une bande de politiques qui débat à longueur de temps sur ce qu'on doit faire avec l'Union européenne. C'est pour ça qu'on en a marre. Il faut en finir avec ce Brexit, qu'on puisse enfin passer à autre chose et régler les problèmes de ce pays.
Il n'y a pas que les politiques qui sont pointés du doigt. Sarah en veut aussi à ceux qui manifestent contre le Brexit.
Ça y est, le vote est passé. S'ils voulaient en rester en Europe, il fallait aller voter comme tous les autres. Moi, d'habitude, je ne vote pas, mais là, j'y suis allée. Le vote, c'est le vote.
Quitter enfin l'Europe, dit-elle, pour tourner la page, arrêter de se déchirer et retrouver un semblant d'unité. Grace, Pauline Jacquot, Europe 1.
Bonjour Marc Roche.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, spécialiste du Brexit, notamment vous avez publié « Le Brexit va réussir » chez Albin Michel en 2019. Est-ce qu'un spécialiste comme vous comprend ce qui se passe, ce qui s'est passé ce week-end autour de l'accord entre Boris Johnson, l'Union européenne, le Parlement? Dites-nous tout.
Écoutez, ce qu'il y a, c'est que Boris Johnson a promis, et catégoriquement promis, c'est sa campagne auprès des militants conservateurs pour se faire élire leur leader et le Premier ministre, il a promis de quitter au 31 octobre. Bon, maintenant, on approche du 31 octobre. Le Parlement, lui, où il n'a pas de majorité, ne veut pas d'une sortie abrupte. Et donc, elle l'oblige de demander un report à Bruxelles. Alors, le problème qu'il y a, c'est que lui, à mon avis, d'après les derniers comptages, n'a pas les voix pour faire passer l'accord signé avec Bruxelles. Donc, l'idée vers laquelle on se dirige, pour résumer cette maison de fous, comme disait votre interlocutrice, c'est bien sûr des élections dans cette période de rallonge de l'Union européenne. Maintenant, il faut que l'Union européenne donne une rallonge.
Bien sûr. Et maintenant, Marc Roche, quel est l'enjeu de ce nouveau vote ce soir? Est-ce que ça peut passer? Est-ce que vous vous risquez à des pronostics?
Écoutez, Boris Johnson a pour lui d'avoir les députés conservateurs dans leur ensemble et des rebelles travaillistes pour essayer de faire passer cet accord scellé avec Bruxelles. Alors, sur le papier, il n'a pas les votes, mais vous savez, les gens, le public en a tellement ras-le-bol que maintenant, ça remonte auprès des députés qui, en cas d'élection, se disent, mais surtout dans les circonscriptions qui ont voté pour quitter l'Union européenne, ils vont se dire, je dois faire attention parce que je pourrais perdre mon siège. Donc, à mon avis, cela pourrait passer. Boris Johnson également, pour lui, le fait qu'il est populaire, que les Britanniques lui sont gré d'une manière ou d'une autre de régler ce problème et de passer à autre chose, et qu'ils aspirent un Premier ministre
à suivre musclé donc.
Oui. Après les désastres de David Cameron et de Theresa May.
Merci Marc Roche, merci. On va suivre cette maison de fous, comme le dit la presse britannique.
Europe 1, il est 8h11. La suite du journal, Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk.
Et direction Mayotte et la Réunion, Emmanuel Macron en Outre-mer. Le président entamera ce mardi un déplacement de 4 jours. Tout d'abord à Mayotte, l'île française qui est l'une des plus touchées par la crise migratoire.
Destination numéro 1 des migrants venant des Comores, toutes proches. Mais pas seulement, certains viennent de bien plus loin, comme l'a constaté pour Europe 1 Charles L'Huillier.
Sur 256 000 habitants à Mayotte, seule la moitié est née ici. Le reste de la population vient surtout des Comores, juste à côté. C'est le cas de Mansour, 32 ans. Il est arrivé en Kwassa Kwassa. Ils étaient une vingtaine, comme lui, sur l'embarcation.
Pour nous, c'était une catastrophe. On se demandait mais comment on va faire. Il y avait des vagues qui rentraient comme à l'intérieur de la barque. On avait froid, c'était pas facile.
2000 euros, voici ce qu'a déboursé Mansour auprès d'un passeur pour venir. Mais d'autres ressortissants prennent depuis quelques années les mêmes risques. Ils viennent désormais du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, transitent par les Comores et arrivent à Mayotte. Romain Rey, responsable associatif, traite des dizaines de demandes d'asile chaque semaine.
Des Algériens, des Marocains, des Soudanais, des Syriens, des Burundais. Ces personnes transitaient par la Méditerranée pour accéder aux portes de l'Europe. Ces voies maritimes sont de plus en plus difficiles d'accès. Il y a un inversement des flux migratoires vers le territoire de Mayotte.
Des voyages qui tournent parfois au drame. Depuis 30 ans, on estime à 12 000 le nombre de disparus au large de Mayotte. Pour décourager les candidats, désormais, le droit du sol a été restreint ici. Un enfant né d'un migrant sur le sol mahorais obtient plus automatiquement la nationalité française.
Charles L'Huillier, journaliste de Radio Freedom, qui est notre partenaire à La Réunion.
Après 4 jours de manifestation, le Liban est au bord du vide. Une partie du gouvernement a démissionné.
Le Premier ministre Saïd Hariri menace d'en faire autant si son plan de réforme n'est pas adopté en urgence. Et pendant ce temps, eh bien, la foule campe dans la rue pour dénoncer la gangrène de la corruption. Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour Sonia.
Tout cela a un parfum de révolution.
Alors ce n'est pas le printemps arabe, c'est une Toussaint libanaise qu'attendent les manifestants. Ils veulent enterrer un régime à l'agonie, incapable de juguler la crise économique. Tout est parti jeudi d'une taxe imaginée par le ministre des Télécoms, Mohamed Choukair. Il voulait faire payer 18 centimes d'euros à ceux qui utilisent WhatsApp, c'est-à-dire ceux qui communiquent avec la famille au loin, c'est-à-dire tous les Libanais. Taxer les utilisateurs d'une messagerie gratuite, même les génies de Bercy, champions du monde de l'inventivité fiscale, n'y avaient pas pensé. Mohamed Choukair, qui a fait ses études à Paris, a osé, et pour cause, la faillite menace. La dette libanaise, c'est la troisième au monde, 86 milliards de dollars, et sa taxe aurait rapporté 200 millions. Les mauvaises langues l'ont aussitôt soupçonné de vouloir en détourner une partie.
Et vous dites, Vincent Hervouet, que parler de ministre corrompu au Liban, ce serait presque un pléonasme.
Les Libanais supportent depuis 50 ans les coupures d'eau et de courant, que Beyrouth empeste les ordures et que les ministres vivent comme des profiteurs de guerre. Les pays amis du Liban ont promis des milliards de dollars pour reconstruire les infrastructures en échange de réformes. Les bisbilles entre politiciens ont tout bloqué. Les Libanais sont en rage, mais l'État libanais qu'ils dénoncent est porté disparu. Le seul vrai pouvoir encore debout, c'est celui du Hezbollah, la milice pro-iranienne. Et pour la première fois d'ailleurs, ses bureaux ont été incendiés hier par les manifestants.
Voilà, gros défi s'il en est pour le Premier ministre Saad Hariri. L'éclairage international de Vincent Hervouet, c'est tous les jours dans le journal de 8h. Merci Vincent.
Et maintenant, tendez bien l'oreille. Vous allez certainement vous dire qu'on marche sur la tête. Écoutez ce qui est arrivé à ce chef cuisinier.
Oui Mathieu, c'est le chef Arnaud Bloquel, désigné meilleur maître restaurateur l'année passée. Propriétaire de 2 restaurants gastronomiques en Guadeloupe, il a reçu la visite d'un fonctionnaire de l'URSSAF pour un contrôle de routine dans l'un de ses établissements. Et à la fin du contrôle, une question inattendue fuse. Pierre Herbulot.
C'est l'histoire d'une question à 14 000 euros. Celle d'un contrôleur de l'URSSAF à Arnaud Bloquel, chef de l'année 2019 des Antilles, dans le célèbre guide Goemio. Après une visite de routine, le fonctionnaire me demande où j'ai l'habitude de manger, raconte le chef sur le site de l'hôtellerie-restauration. C'est la fameuse question. Arnaud Bloquel y répond presque naïvement, au restaurant, bien sûr, où il passe ses journées. Des repas qu'il est obligé de déclarer. Problème, le fonctionnaire se base sur le prix moyen du couvert de sa table gastronomique, 107 euros, l'équivalent du menu en 5 services avec ses langoustines, sa côte de bœuf marinée et autres bouillons corsés. Sauf qu'Arnaud Bloquel, lui, se contente toujours de plats simples, en général des pâtes au beurre. On garde les produits nobles pour les clients, tente-t-il d'expliquer, mais rien n'y fait. L'administration lui réclame 14 000 euros pour les 3 dernières années.
Pierre Herbulot, pour Europe, hein, vous rendez compte évidemment que évidemment qu'un chef mange dans son restaurant. L'inverse serait inquiétant.
C'est du bon
sens. Si je puis me permettre. Il est 8h16 sur Europe 1.